pour la fête des saints ancêtres du Seigneur, on lit une généalogie. Abraham engendra un tel, un tel engendra un tel autre, etc., etc., etc. Et ça, on arrive à Jésus. Dans un premier temps, l'énumération nous semble un peu fastidieuse, surtout que la plupart du temps, les personnages nous sont évoqués, ne nous sont peu connus. D'une part, par manque de culture biblique de notre fête, et aussi pour une bonne raison, c'est qu'un certain nombre de ceux-là ne sont des personnes qui sont de la généalogie ne sont même pas connues par la Bible elle-même. Donc, il y a de bons motifs pour lesquels on peut ne pas les connaître. Et pourtant, cet évangile est plein d'enseignements et particulièrement bien choisi pour donner la révélation, donner une révélation à la veille de la fête de Noël, de la célébration solennelle de la nativité du Christ. Donc, je reprends le texte de l'évangile et je vais essayer, non pas tous les versets les uns après les autres, mais de vous donner quelques grandes lignes en suivant plus ou moins l'ordre du texte. D'abord, dès le commencement, c'est livre de la Genèse de Jésus, Christ, fils de David, fils d'Abraham, et toute la généalogie s'en suit. Livre de la Genèse, c'est un terme, deux termes, qu'on ne retrouve que deux fois dans la Bible, justement, précisément, à la Genèse. On pourrait traduire livre de l'origine de Jésus, si vous voulez. Mais le mot Genèse, choisi par l'évangéliste, nous fait un parallèle évident avec le livre de la Genèse, le premier livre du Pentateuque. Ceci montre le but de l'évangéliste de faire un parallèle très clair entre la création d'Adam, le premier homme, et l'incarnation du Verbe. Dans la création d'Adam, avant la création d'Adam, nous voyons l'Esprit Saint planer sur les eaux primordiales pour leur donner vie. Et c'est ainsi qu'on voit aussi l'Esprit Saint obrombrer, couvrir la Vierge Marie de manière à ce qu'elle devienne la Mère de Dieu. De cette manière-là, on voit que la création, comment dire, la généalogie amène à l'émergence d'une nouvelle création, d'une nouvelle humanité, d'une humanité spirituelle, j'allais dire. Jésus est le premier homme, et Dieu, comme nous le savons bien sûr, mais il est le premier de ces hommes divinisés, de cet homme divinisé, si vous voulez, l'expression n'est pas tout à fait juste, mais ce premier homme de la nouvelle création, il est véritablement le nouvel Adam. Comme Dieu avait créé un homme au début de la création, de même il recrée un homme nouveau, le corps du Christ. Faut dire que c'est ce que nous avons lu aussi, ce que nous avons lu dans cet évangile, a deux parties, n'est-ce pas? La suite de la généalogie qui commence, la première commence par livre de la Genèse de Jésus Christ, fils de David, fils d'Abraham, et une deuxième série de Jésus Christ. Telle fut la Genèse, sa mère Marie était promise à Joseph. Vous voyez, et là aussi dans ce récit, il y a un parallèle entre les deux récits. quoique ce dernier verset de Jésus, tel fut la Genèse, peut être lu de deux manières, ou bien alors en conclusion de la généalogie que nous avons entendue précisément, donc de l'exil de 14 générations de Jésus-Christ, tel fut la Genèse, point. Et on commencerait un second récit, sa mère Marie était promise à Joseph, etc. Mais ça peut être compris aussi, ça peut être lu aussi, comme la première phrase d'un nouveau récit qui nous mène avec Marie et Joseph à la naissance du Christ. Dans les deux cas, on voit que comme dans la Genèse, c'est l'émergence d'un Adam ou d'un nouvel Adam qui est l'œuvre du Saint-Esprit. Et on voit de cette manière-là à quel point Dieu est attentif aux besoins de l'humanité. C'est Dieu qui suscite une humanité ou une nouvelle humanité dans le cadre de l'incarnation du Christ. Passons maintenant aux personnes qui sont évoquées dans cette généalogie. Dans un premier temps, nous avons 14 générations qui sont les générations des patriarches. Abraham, Isaac, Jacob, Judas, Pharès, etc., etc. 14 générations. Pourquoi 14? Je connais pas bien j'ai lu, parce que je peux pas vous dire par moi-même, ne connaissant pas, n'ayant pas fait d'études d'hébreu, mais j'ai lu que le total des chiffres qui compose le nom de David ferait 14. Alors comment, je ne sais pas, me demandez pas. Donc symboliquement, il y aurait, mais François pourra certainement vous éclairer à ce sujet-là, ce que je ne suis pas capable de faire. Et après la première série de patriarches, il y a une deuxième série de 14 générations qui sont les rois. Et puis encore une autre série de générations, encore 14, qui sont les rois d'après l'exil. Vous rappelez que la Terre Sainte, le peuple d'Israël a été vaincu par la persécution de Sennacherib et ont été exilés à Babylone, en Babylonie. Et après, avec les injonctions, les conseils et les oracles transmis par le prophète Jérémie, ils sont revenus à Jérusalem, ils ont repris possession de la terre promise, et là se sont mis à reconstruire le temple et à revivre comme peuple jusqu'à la destruction de Jérusalem par les Romains en 75 après le Christ. Donc voilà les trois échelons de cette échelle des générations qui sont, comme certains pères l'ont fait remarquer, comme l'échelle de Jacob. Vous rappelez que Jacob, ayant eu un songe, a vu une échelle posée sur terre. Et le haut de l'échelle posé sur le ciel, et des hommes ou des anges monter et descendre de cette échelle. Mais certains pères du moins, ont vu dans cette échelle-là la prophétie que voyait par avance le Jacob de tous ces échelons successifs, ces 3 x 14 générations qui aboutirait évidemment au Christ descendant sur terre par son incarnation. La deuxième et la troisième série de générations, les rois d'avant l'exil et d'après l'exil, ces listes-là sont artificielles. C'est-à-dire que l'évangéliste a fait en sorte que il y en ait encore 14. Mais réellement, il n'y en avait pas 14. Étant donné que c'était symbolique, le chiffre 14 de la première génération, les deux autres séries doivent correspondre à la première pour montrer que c'est un renouvellement de ce qui existait déjà, si vous voulez, de ce qui a déjà eu lieu. Et prenons la deuxième série, je reviendrai à la toute première des patriarches plus tard. Dans la deuxième série, d'après la Bible, il devrait y avoir 18 générations et ont été enlevées. L'évangéliste a enlevé la génération d'Ocosias, parce que Ocosias était impie. Il n'est donc pas compté parmi les ancêtres du Seigneur. Il y a Joas et Amasias qui ont été des réformateurs, mais des réformateurs incomplètement, qui n'ont pas été jusqu'au bout de la réforme. Hein. Donc eux aussi sont écartés. Et il y a Joachim aussi, qui avait méprisé les avertissements de Jérémie quand il était en exil pour revenir. Donc lui aussi est enlevé de la liste. Si bien que 14 générations, quand on enlève 18 générations théoriques d'après la Bible, mais quand on enlève les 4 qui sont impies, si vous voulez, pour une raison ou pour une autre, il nous reste donc les 14 générations. Et puis quand on voit la troisième liste avec ceux qui sont revenus d'après l'exil, on voit que la plupart d'entre eux sont complètement inconnus, même de la Bible. Il y en a un qu'on connaît bien, on connaît Jéconias, je vous l'ai cité tout à l'heure. Jéconias Zorobabel est bien connu. Zorobabel est revenu d'exil. Et c'est lui qui a reconstruit, qui a aidé le peuple à reprendre pied en terre sainte, en terre promise. Et c'est lui qui a été à l'origine de la reconstruction du temple. Or, nous savons que le véritable temple, c'est celui qui s'est décrit comme étant tel, c'est le Christ lui-même qui est le véritable temple de Dieu. Donc, à ce titre-là, Zorobabel a pleinement sa place dans les ancêtres du Seigneur, puisqu'il est la figure, la prophétie de cette construction du nouveau temple, non plus un temple, simplement un temple de pierre, mais un temple de chair qui est le Seigneur. Là aussi, dans cette liste, il y a encore une anomalie. Jéconias engendra Salatiel engendra Zorobabel. Ah, il y a un défaut simplement, c'est que Zorobabel n'est pas le fils de Salatiel, il est le petit-fils, donc entre deux il en manque un. Il en manque un, Pédaïa, que vous trouverez dans le livre des chroniques. Et puis les autres ne nous sont pas connus. C'est-à-dire que ces généalogies ne prétendent pas être totalement historiques, si vous voulez. C'est une généalogie spirituelle à travers une histoire réelle, mais qui est arrangée pour voir son aspect spirituel et arrangée par l'évangéliste de manière, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y ait trois fois des générations de 14, trois listes de générations de 14, de trois listes de 14 générations à la fois. Il y a dans cette progression, si je puis dire, dans la progression, dans les échelons de ces généalogies, il y a comme une, je sais pas comment on peut dire, il y a une, c'est symptomatique de l'évolution de l'humanité, si vous voulez. Je parle pas de darwinisme, hein, je parle pas de science, là, en l'occurrence, hein. Et la première série de 14 générations, les patriarches, semble être, tel que c'est raconté là, telle semble être une presque parfaite, si vous voulez. Après, avec les rois, on a David et Salomon qui ont été les rois extraordinaires, comme nous le savons. Bon. Et petit à petit, ça a amené à l'exil, c'est-à-dire un anéantissement momentané d'Israël en tant que peuple. Et puis, sont revenus après, parce que Dieu a suscité à travers Jérémie, à travers les prophéties de Jérémie, Dieu a suscité un retour vers la terre promise qui semblait encore une nouvelle création, et là le peuple s'est mis à revivre. Mais là, petit à petit, les personnes qui sont citées ici sont tombées en oubli, si vous voulez, et les générations auraient été complètement oubliées si le Seigneur n'était pas intervenu d'une manière miraculeuse pour susciter un au-delà de cet anéantissement qui est la figure d'une résurrection, encore d'une nouvelle création avec la nativité miraculeuse du Christ. Quand je vous parlais de Zorobabel tout à l'heure, j'ai oublié de vous dire que dans les Écritures, notamment dans le livre d'Agée et dans le Siracide, on voit que de qui je vous ai parlé, de Zorobabel, il est l'élu de Dieu parce qu'il a, je vous l'ai évoqué, parce qu'il a rebâti le temple de Jérusalem, la maison de Dieu. Il est cité comme ça, si vous voulez. Et étant élu de Dieu, évidemment, il est, si je puis dire, la lumière de toute cette génération qui après ira progressivement vers une semi-extinction s'il n'y avait pas l'arrivée miraculeuse du Christ. Dans quel sens vous prendre ça maintenant? Reprenons, comme je l'avais dit, reprenons la première série de générations, celle des patriarches. Dans cette génération, quatre femmes, on ne dit pas qu'elles ont engendré elles-mêmes, mais elles ont été les femmes de ceux qui ont engendré. Il y a Tamar, il y a Rahab, il y a Ruth, il y a la femme d'Uri. Trois femmes qui sont présentées comme d'après l'histoire, sont à un titre ou à un autre des pécheresses. Tamar, le péché de Tamar, son l'inceste de Tamar, avait pour but, comme Dieu l'évoque quelque part, que elle a fait ça pour susciter une descendance à la promesse que Dieu avait fait à Abraham, de manière à ce que la promesse continue. Si bien que malgré son péché, on voit que elle a servi, son acte a servi le dessein de Dieu qui se sert même du péché des hommes pour aboutir à ses fins, c'est-à-dire au salut des hommes. Rahab, à Jéricho, était considérée comme une prostituée, mais elle s'est rachetée, elle, en aidant Jésus, fils de Navé, donc en prenant le parti d'Israël. C'est une des figures de ces personnes, des nations, si vous voulez, des nations païennes, quand on dit les nations, c'est les païens, qui viennent s'agréger au peuple d'Israël et à travers, évidemment, l'ouverture que nous donne le Christ est développée comme on le voit développé par Saint Paul, avec les nations qui viennent se convertir et qui viennent faire partie du nouveau peuple élu, le peuple chrétien. Ruth, la troisième femme, Ruth, auquel qui n'est pas entachée de péché particulier, mais qui est elle aussi une étrangère qui s'est intégrée au peuple élu. Elle est, comme la précédente, à ce titre-là, une figure éminente de la conversion des nations, de la conversion des nations païennes. Et puis, il y a la dernière des quatre, qui est Bethsabée, la femme d'Uri. Et la manière dont l'évangéliste la présente est particulièrement intéressante. David engendra Salomon de celle de la femme de Uri. Ceci est intéressant parce que l'évangéliste, en montrant que David a épousé la femme d'Uri, c'est mettre le doigt sur la faute de Bethsabée, qui est de l'adultère de Bethsabée. Cependant, le Seigneur suscite à David une descendance à travers Bethsabée, mais qui est Salomon. Mais Salomon n'est pas lui-même le fruit du péché. Salomon ne sera engendré par David en la femme d'Uri que après son repentir. Donc rentre encore dans le cadre de la filiation sainte qui amène à la nativité du Christ. Et s'il faut chercher, mais à ces quatre femmes citées dans les généalogies, et il y en a une cinquième évidemment qu'il faille ajouter, c'est évidemment la Mère de Dieu, auquel aboutit toute l'Ancien Testament pour nous donner et nous révéler le Verbe incarné. Le Seigneur utilise des voies tortueuses quelquefois ou à travers les pécheurs, mais même le péché entre dans l'économie divine, ce qui ne veut pas dire que Dieu favorise le péché, mais il se sert aussi du péché des hommes pour accomplir ce dessein. De même qu'il a suscité une descendance au patriarche à travers des femmes stériles comme Sarah, Rebecca ou Rachel, et ce qu'il va encore faire avec Marie, la mère de Dieu, qui, bien que vierge, va enfanter un fils qui sera le Christ. Une autre, à la fin de la dernière généalogie, nous voyons que Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est engendré Jésus. Vous avez vu que dans la généalogie, on voit que un tel engendra un tel, etc. Et ça en arrive à Joseph, qui précisément n'est pas le père de Jésus. Pour montrer que le Seigneur Dieu se joue en quelque sorte de l'histoire des hommes. Il a une autre manière d'intervenir au-delà de la logique des hommes. Et l'évangéliste ne fait pas la généalogie des ancêtres de la mère de Dieu, mais du père adoptif de Jésus, celui qui devait lui donner une existence légale par rapport à la loi. Et puis de la mère de Dieu, il est dit que Jacob engendra l'époux de Marie, de laquelle est engendré Jésus. l'évangéliste ne dit pas par qui Jésus est né, mais il dit de qui. C'est-à-dire qu'il est enfanté, Jésus n'est pas engendré par Marie, mais il est engendré en Marie. C'est-à-dire que là, ce n'est pas une naissance normale, si vous voulez, il y a une affirmation à travers ça de la virginité de la Vierge de Marie dans la naissance du Christ. Et de la même manière qu'on voit que quelques versets plus loin, l'ange dit à Joseph, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car ce qui est en elle est engendré d'Esprit Saint. Il est engendré de l'Esprit Saint, mais pas par l'Esprit Saint. C'est par l'Esprit Saint qui a fécondé la mère de Dieu. C'est à travers l'Esprit Saint que la mère de Dieu a été fécondée pour donner naissance au Christ. Et ceci est une subtilité des Écritures, si je puis dire, pour éviter de bien se distinguer de ce qu'on appelle les théogamies, c'est-à-dire de bien nous distinguer des mythologies anciennes, notamment égyptiennes, mais pas exclusivement, où on voyait que certaines des femmes avaient été fécondées par un dieu. Et là, c'est pas une femme qui a été fécondée par Dieu, il n'y a pas eu d'union de l'un ou de l'autre. Il y a eu une naissance, un engendrement purement charismatique, c'est-à-dire purement suscité par l'Esprit Saint.